Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI en cette soirée spéciale. Vous l'avez entendu à la radio, c'était une deuxième soirée de Ligue des Champions et nous voilà au rendez-vous. Je ne suis pas seule, Nabil Djellit et Patrick Juillard sont avec moi. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Annie.
Ainsi que notre ancien stagiaire aujourd'hui devenu confrère, Saïm Hamda, bonsoir.
Bonsoir Annie.
Lui qui joue les prolongations, c'est sur EVL en podcast, une émission que vous pouvez écouter sur Internet. En tout cas, les résultats du soir. Alors le PSG, vous l'avez entendu, hein, vainqueur à Galatasaray. Un seul but parisien, le premier d'ailleurs, signé Mauro Icardi. Et voilà le club de Paris, premier de son groupe. Une bonne opération pour l'équipe de Tuchel qui a donc évité le piège de la très chaude ambiance d'Istanbul. La grosse surprise de la soirée, en fait, est venue de Madrid. Le Real a arraché un match nul miraculeux face à Bruges. Un seul point en deux matchs pour les merengues qui ont dû s'en remettre à leur cadre pour revenir au score face donc à l'équipe belge, les vieux cadres. Et on y reviendra, auteur des deux buts. Enfin, à Londres, signalons le naufrage de Tottenham. Pas seulement parce que il jouait sous une pluie battante et très britannique, les Spurs écrasés par le Bayern 7-2. Gnabry, auteur d'un quadruplé, Lewandowski d'un doublé et Kimmich aussi a marqué son but. Nous allons revenir donc sur tous les résultats de la soirée. À noter aussi que la Juve a gagné et Cristiano Ronaldo a marqué. Rendez-vous tout de suite donc, Radio Foot, c'est parti.
Ça revient dans la surface, qui va trouver juste un moment Mauro Icardi pour l'ouverture du score de Paris. On disait du mal de Mauro Icardi, mais c'est comme ça, toujours comme ça. C'est quand on dit du mal de quelqu'un, eh bien qu'il finit par marquer.
Une dernière chance pour Galatasaray, mais une intervention, non, c'est terminé. Il a décidé de ne pas aller au bout des 4 minutes et finalement on en reste là au bout d'un certain ennui.
Deux victoires en deux matchs de Ligue des Champions. La saison commence donc plutôt bien pour le Paris Saint-Germain, mais ils aiment bien cette phase de poule. Les Parisiens, on y est habitués. En tout cas, après la victoire au Parc des Princes face au Real il y a 15 jours sur le score de 3-0, l'équipe a donc gagné à Istanbul. Olivier Pron, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Voilà les Turcs, ils avaient un 12e homme, mais ils n'ont pas suffi pour pousser leur équipe et le Paris Saint-Germain a eu pas mal d'occasions, mais 1-0, de toute façon, ils ont la victoire.
Oui, c'est ça, c'est à peu près ce qu'on peut en dire. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Le 12e homme, moi j'aurais dit 11,5 parce qu'on s'en faisait une montagne de ce public. Oui, il est présent, mais enfin, finalement, pas plus que dans un certain nombre de stades un peu partout. Ça fait beaucoup de bruit, mais finalement, dans l'adversité, ça n'en fait plus beaucoup. Ils y ont cru jusqu'au bout, ils sont restés, ils ont applaudi les joueurs en partant, comme si finalement, ce 1-0, ils s'en contentaient, ils ont peut-être eu peur d'en prendre un peu plus. Pourtant, ce pari-là me semblait pas inoffensif, mais voilà, on a eu 20 bonnes premières minutes en première période, et puis un gros quart d'heure en deuxième période, et puis sinon le reste, ça a fait plutôt pchit. J'échangeais il y a quelques instants, pour tout vous dire, en vous attendant, avec quelqu'un que vous connaissez bien, un dénommé Habib Bey, qui commentait pour nos confrères de Canal+, et qui, voilà, après avoir qualifié la première mi-temps de moyenne as, disait que finalement Paris était dans la continuité, que l'essentiel c'était d'avoir pris 3 points ici, et c'est vrai bien sûr, et que même s'il y avait du déchet technique, beaucoup moins de passes réussies que d'habitude, 75%, ce qui est peu pour Paris, l'essentiel était acquis, c'est 3 points de pris et c'est plutôt pas mal à Galatasaray et face au Real Madrid.
Oui, on est d'accord, c'était pas un très grand match, mais même Thomas Meunier à la fin du match, on va l'entendre au micro de nos confrères qui retransmettaient le match de RMC, Thomas Meunier se satisfait surtout des points alignés par le Paris Saint-Germain.
Soirée parfaite par rapport au résultat aussi de Bruges et du Real, bien sûr, le 2-2 qui nous permet d'avoir 4 points d'avance sur notre dauphin, tout simplement. Et puis pour le reste ici, je pense qu'on savait que ça allait pas être évident. Alors on a vu l'apport du 12e homme clairement avec une ambiance qui s'intensifie à chaque possession de balle, etc. Et je pense que ça joue psychologiquement pour l'équipe à domicile. Donc ben, systématiquement on encaisse. Mais pour le reste, voilà, je suis vraiment content de l'équipe. On s'est battu, on a été au duel, on a résisté. Et on a eu un tas d'opportunités. Ça aurait pu être 0-2, même 0-3 à un moment. Et finalement, voilà, la mentalité était là et je crois que c'est ce qu'il y a de plus important.
Nabil, la mentalité était là, dit Thomas Meunier. Oui. Il dit que c'est le plus important. C'est mentalité de vainqueur.
Bah, l'état d'esprit, le fait de travailler tous ensemble, faire les mettre pour son partenaire.
Les efforts.
Voilà, c'est ce qui a un peu parfois manqué au Paris Saint-Germain. Après, Thomas Meunier, lui, c'est le premier à pouvoir se targuer d'avoir quand même avalé des kilomètres sur son côté, même s'il n'a pas toujours été précis dans ce qu'il a fait, notamment dans le dernier geste. Le Paris Saint-Germain était un cran au-dessus, m'a pas donné l'impression de souffrir face à cette équipe de Galatasaray qui jouait parfois de manière désordonnée. Après, les enseignements, on va pouvoir les tirer tranquillement ensemble. Il y a eu des bonnes choses et d'autres moins.
Patrick,
L'intensité, moi, j'ai retenu, parce que le PSG, comme vous l'avez dit, est bien entré dans le match, a su prendre le match par le bon bout, mais n'a pas concrétisé son premier temps fort avec notamment deux situation très nette pour Di Maria qui ont bien été gérés par Muslera qui a dans l'ensemble fait un excellent match, faut le souligner.
Ça a été le meilleur joueur de Galatasaray.
Pratiquement avec peut-être Louis Ndama derrière.
Oui,
qui a été très bon dans ses interventions. À part ça, le PSG malgré ensuite un bon retour de Galatasaray dans le match qui a bien repris l'ascendant sur le plan physique notamment. Le PSG s'est pas décomposé, le PSG a su laisser passer un petit peu ce temps fort turc, et ensuite a quand même pris globalement le dessus en deuxième période, avec notamment la rentrée de Mbappé. Et voilà, c'est un succès logique, et on voit quand même un double visage du PSG, parce que si le PSG arrivait à mettre la moitié de l'intensité qu'ils mettent en Ligue des Champions dans les matchs courants du championnat, ils ne gagneraient pas 1-0 à la 87e contre Strasbourg.
Il faut envoyer un texto à Di Maria qui est un spécialiste.
Ils ne perdraient pas contre Reims à domicile.
Qui est un spécialiste des matchs, des compétitions à deux visages, exceptionnel en Ligue des Champions,
quelconque
en Ligue 1.
Ouais, exactement.
Ouais. Saïd, que vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur cette rencontre.
Ce que je retiens, c'est que Paris a été réaliste. Ces trois points qu'ils sont allés chercher, qui n'étaient pas donnés, aller jouer à l'extérieur comme ça à Galatasaray, c'est pas évident. Ils ont un public qui pose beaucoup. Alors on peut être pas d'accord avec ça, mais le public pour moi influe beaucoup sur la rencontre, sur la pression. Ils ont profité aussi de la tête convenue du Real Madrid, donc c'est aussi de l'avance prise sur le Real, et ils peuvent maintenant avoir terminé premier du groupe, et ça c'est une belle option.
Alors juste un petit bémol et puis un trait d'humour, malheureusement pour Galatasaray aujourd'hui, le spectacle il est plus dans les tribunes que sur le terrain, parce que footballistiquement c'était assez indigeste quand même du côté des Turcs.
C'est dur quand même, Nabil, parce que c'est indigeste, c'est pas tant indigeste que ça. Déjà ils ont essayé de reprendre le ballon, ce qu'ils ont réussi à faire une bonne partie de la première mi-temps, ce qui n'est pas donné à tout le monde, contre le PSG niveau Ligue des Champions. Indigeste, il faut voir aussi les effectifs et le contenu. Quoi. Bon, c'est...
Je trouvais ça plutôt faible.
Après, Nabil n'a pas tort. Hein. Galatasaray est 7e de son championnat, ça commence assez mal.
Ils font pas un bon début de saison.
Ils font pas un bon début de saison. Après, aujourd'hui, ils ont été...
Mais justement,
c'est peut-être leur meilleur match de leur saison.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Peur, hein.
J'ai pas trouvé ça si mal que ça par rapport au derby d'Istanbul qu'on avait vu ensemble, Nabil, qui était là pour le coup abominable.
Je le dis gentiment, il y a Neymar et Mbappé au coup d'envoi. Au bout de 20 minutes, c'est réglé. Avec une défense qui avait du mal à trouver ses marques et qui avait parfois un alignement niveau dimanche matin.
Idrissa Gana Gueye était sur le terrain aussi, lui, hein, parmi les 11 Parisiens. Écoutons-le analyser ce match à son tour.
On a montré beaucoup de maturité aujourd'hui. Même si c'était compliqué, on a su rester calme et garder notre confiance, essayer de jouer même de temps en temps et essayer de sortir des ballons, jouer en contre-attaque. Et voilà, tout le monde le sait, c'est compliqué de venir prendre les trois points ici. On l'a fait aujourd'hui. Donc maintenant, on est attendu et tout le monde nous attend et tout le monde sait comment il faut jouer contre nous. Peut-être il faut presser plus haut, essayer de jouer en contre-un et surtout au marquage individuel. Donc c'est plus compliqué pour nous de sortir les ballons. Mais voilà, l'essentiel, c'est de montrer qu'il n'y a pas que le milieu qui doit faire le jeu. Il y a toute l'équipe qui est concernée. Des fois, il faut varier notre jeu peut-être. Quand il va chez nous, on essaie de jouer long pour jouer en contre-attaque et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui.
Ouais, Ganagay, au niveau du match qu'on l'avait vu presque, en tout cas débuter avec le PSG au Parc des Princes.
Je l'ai trouvé dans la lignée de tout ce qu'il fait depuis le début de la saison. Il est vraiment à sa main, il gère bien, il alterne bien jeu court, jeu long. Il fait les bons choix dans les relances, dans les orientations. Donc rien à dire. Bon dans l'engagement aussi, sans excès, parce que parfois c'est vrai que Galatasaray ils ont été dans l'engagement, mais un peu dans l'excès.
Ouais,
ils
on
ont
va y venir.
Parfois un peu trop de coups, mais oui, un très bon gars.
Olivier Pron, tout à l'heure vous disiez on dit du mal de Mauro Icardi. Alors c'était effectivement vous qui disiez ça dans la première partie de Radio Foot International, et c'est lui qui offre le but de la victoire au Paris Saint-Germain.
Oui, c'est important. C'est le seul ballon qu'il a touché, pratiquement. Il a su en faire quelque chose. Il marquera des buts sans doute plus compliqués que cela, mais l'essentiel, c'est qu'il est marqué. Mais on en disait du mal parce qu'on constate, on commente ce qu'on voit, en général, Annie, quand on est au stade. Et Mauro Icardi, on peut pas dire que jusqu'à son but, il nous ait montré grand chose pendant 50 minutes. Mais il a été là pour marquer un but. Et c'est tout ce qu'on retiendra. C'est son premier avec le Paris Saint-Germain. Et on espère pour lui et pour Paris qu'il en marquera plein d'autres. Mais il faudra quand même être un peu plus velléitaire que ça. En revanche, tout ce qui a été dit sur Idrissa Gueye, ça c'est clair, surtout en première période, il est vraiment toujours généreux dans l'effort, toujours bien placé, très combatif, il est partout sur le terrain. Franchement, c'est un plaisir de voir jouer Idrissa Ganagay.
Nabil, Ganagay, effectivement, on le connaît, il est là, rouage essentiel, on va dire, dans cette équipe. Hein. Verratti aussi était
pas
bien
gagné,
présent.
C'était pas gagné, non pas ici à Radio Foot International et pour les gens autour de ce plateau, puisque
on le connaît bien.
On connaît bien l'international sénégalais. On savait que c'était un des meilleurs milieux de terrain du côté du championnat d'Angleterre en première ligue. Là, aujourd'hui, il est en train de s'installer. Il va falloir qu'il s'inscrive encore une fois dans la durée. Il y a aussi de la concurrence. Il y a Herrera notamment qui est là, même s'il n'est pas exactement dans le même registre. Moi, je veux bien dire tout le bien que vous voulez aujourd'hui du Paris Saint-Germain, il n'y a aucun souci. Ils sont forts, ils sont bons en poule, mais encore une fois, là où il faudra être vraiment très fort, c'est à partir du mois de février.
Bien entendu.
Bien entendu. Et je rappelle quand même à leur décharge, entre guillemets, parce que moi, vous me l'expliquez comme vous voulez, s'il y a Neymar ce soir, alors ok, on va pas parler des absents, mais c'est une équipe qui a une marge incroyable. Si en plus vous arrivez à inscrire Neymar dans cette équipe qui la sublime collectivement, ça peut
et
prendre...
Mbappé à 100%, parce qu'on a Mbappé qui est quand même loin loin du compte pour le moment, qui a fait ce qu'il pouvait dans les 30 minutes, mais quand Mbappé va retrouver son coup de hanche, son coup de rein et ses accélérations avec Neymar, oui bien sûr.
Mais il faudra qu'il défende, Olivier. C'est-à-dire que c'est ça en fait la clé pour le Paris Saint-Germain cette saison.
Pour l'instant, physiquement, il est pas bien, ça se voit.
Oui, c'est-à-dire qu'ils doivent intégrer ces deux joueurs-là en gardant
l'état d'esprit,
ce collectif et cet état d'esprit qu'ils ont montré sur ces deux matchs de Ligue des Champions, et par contre qu'ils n'ont pas beaucoup montré en Ligue 1, comme si effectivement il y avait ça accrédite la thèse selon laquelle ils choisissent un peu leur match.
On le sait, Saïd.
Non, mais voir Paris comme ça jouer sans Neymar, sans Mbappé, en tout cas avec un Mbappé au top de sa forme, je trouve ça rassurant. Pour moi, l'une des clés du match, parce que tout à l'heure tu parlais de clé Nabil, c'était au milieu de terrain. On savait que les Stambouliotes allaient mettre beaucoup d'impact au milieu de terrain et Paris se devait de répondre présent et ils l'ont fait. Donc avec un Idrissa Ganagay et un Marquinhos beaucoup dans l'impact physique et un Verratti qui aussi distribue très bien le jeu vers l'avant, ils ont répondu au trio de Galatasaray et pour moi, la clé du match était là. Si le milieu parisien n'avait pas été à la hauteur, je pense que Paris aurait été submergé beaucoup plus rapidement.
Mais il faudra faire des choix à un moment donné. Il a raison, Saïd, ce milieu-là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu la trouvaille de ce Paris Saint-Germain, version Tuchel, saison 2. Mais quand Cavani va revenir, Icardi est là, quand Mbappé est là, Neymar, Di Maria, si vous voulez conserver cette densité au milieu et gagner le rapport de force au milieu de terrain, c'est là qu'on va avoir le rôle de manager de Tuchel. Et peut-être juste un dernier mot, Ganagay, oui, super match, mais du côté de Galatasaray, Jean-Mika Seri, l'international ivoirien, a pour moi été aussi quasiment le meilleur de son équipe derrière Mousselera. Donc c'était quand même important aussi un petit coup de projecteur sur Jean-Mika Seri.
On a vu justement Jean-Mika Seri, il a même failli marquer un but à un moment. Enfin, en tout cas, il a eu un tir dangereux, Olivier.
Oui, il a eu un coup franc assez vicieux. On attendait ça dans la boîte pour une tête. Il a mis le ballon au premier poteau et Keylor Navas, qui n'a pas eu 36 000 trucs à faire, l'a très très bien fait. C'est vrai que Mousselera a eu beaucoup plus de travail. Je suis tout à fait d'accord pour dire que c'était l'homme du match côté Galatasaray, indiscutablement. Il a fait 2-3 arrêts, notamment en première période, face à une volée de Di Maria, si je me souviens bien. Mais Jean-Michel Seri, sur ce coup franc-là, aurait pu tout à fait ouvrir le score. D'ailleurs, tous les Parisiens sont allés féliciter Keylor Navas. s'y était pas trompé et il fallait être vigilant. C'est souvent comme ça, hein, ça peut basculer sur un coup de patte et Jean-Michel Serré aurait pu faire ce coup de patte-là.
Patrick ?
Ça faisait du bien effectivement de revoir Jean-Michel Serré à ce niveau-là puisqu'il y avait une saison très difficile à Fulham en Première Ligue. Et on retrouve un petit peu le... Et d'ailleurs, la ressemblance avec les années niçoises était accentuée par la présence de Belanda sur la pelouse. Donc voilà,
Belanda
qui
masqué,
pour le coup était quand même un peu en ton en dessous de Jean-Michel Serré sur le match.
C'est dommage que Sofiane Feghouli, lui, ne soit pas rentré avant, le champion d'Afrique algérien, parce
oui.
que je trouve qu'il a apporté dans les
J'allais
décalages
le
et dans l'envie. Bon, bah, je suis heureux qu'on puisse se rejoindre enfin, Olivier, ça fait longtemps.
Oui, ça faisait longtemps, mais vous voyez, tout est là. Hein, finalement, c'est une... le football, on regarde les matchs et on se fait notre opinion chacun. Mais c'est vrai que Feghouli, on l'a dit d'ailleurs dans la retransmission, il a apporté vraiment quelque chose quand il est entré. On le sait, c'est un joueur qui n'est pas embêté avec le ballon quand il est en forme et il l'a montré ce soir.
Saïd, un mot encore sur ce match ?
Ouais, très content pour Serré. On se rappelle en 2017 qu'il a fait une année exceptionnelle avec Nice et qu'il était même sollicité par le Barça. Hein, donc, ce qui montre quand même son impact. Aujourd'hui, si Mario Lemina avait été disponible, on ne l'aurait pas vu. Donc, c'est quand même une belle chose d'avoir pu le laisser s'exprimer. Je suis très content de le revoir retrouver ce niveau. Et si je pouvais donner un petit mot sur Sofiane Feghouli, j'ai l'impression que ça a un peu un air de sanction, puisqu'il était un peu moins bien avec Galatasaray. Même si lors du premier match de Ligue des Champions, il touche la barre quand même. Donc ce joueur, j'aime beaucoup ce joueur pour son côté revanchard. Dès qu'il rentre sur le terrain, il donne tout. Vraiment, avoir un Feghouli dans l'équipe,
un
c'est
vrai
très, très précieux. Très, très précieux.
Et ben voilà le Paris Saint-Germain, premier de son groupe. Et on va vous laisser aller recueillir les avis des joueurs, Olivier Pron, du côté de la sortie du vestiaire.
On fait un pari, il y aura plus de joueurs de Galatasaray que de Parisiens à nos micros.
Bon, bah écoutez, on verra, ils sont contents, ils ont gagné, alors ils auront peut-être envie de s'arrêter.
Oui, oui, à Paris, j'ai connu un 7-1 contre le Celtic Glasgow, on n'avait eu personne au bout d'une heure. Donc, attendons et voyons. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, en tout cas.
Et vous savez qu'il y a eu 7-2 du côté de Tottenham.
Oui,
ce soir, on va en
bien
parler
sûr,
tout
bien
à
sûr. On avait le temps de regarder les écrans, le match n'était pas si emballant.
Merci beaucoup et bonne soirée du côté donc, du Bosphore, et dans la zone européenne encore, d'Istanbul. Merci Olivier.
Merci.
À plus tard. On va continuer donc alors dans le même groupe puisque dans le même groupe, le Real Madrid a joué et le Real Madrid, n'a pas franchement eu beaucoup le ballon. Enfin, on va voir, on en discute.
Vanaken. Ouais, il n'y a pas de hors-jeu pour Persitao sur le côté. Il est parfait, ce centre-là. Et ça va finir au fond.
But.
Et oui, c'est l'ouverture du score. Et ben elle est là. Attention. Emmanuel Denis qui va peut-être avoir le 2-0. Denis jusqu'au bout. Oh, mais c'est plus une déflagration. C'est un cataclysme qui est en train de s'abattre sur Santiago Bernabéu. C'est complètement fou. 2-0 pour Bruges. Le centre de Benzema, second poteau. Avec la tête ! Ah, c'est ce qui s'appelle être un patron, oui bien évidemment, qui est là pour ranimer la flamme, Sergio Ramos, le capitaine. Toni Kroos par-dessus avec ce coup de tête. Et Casemiro, l'orgueil du Brésilien, l'orgueil du Real, la réaction des Madrilènes. Elle est belle, elle est forte et tout est relancé grâce à Casemiro. Et on en restera là, le Real Madrid a... la catastrophe, mais le Real évite le pire.
Et oui, le Real évite le pire. Ce deuxième match de Ligue des Champions a bien failli tourner comme le premier à la catastrophe. Les joueurs du club belge ont en effet, vous l'avez entendu, inscrit ses deux premiers buts en début de match. À la mi-temps, ils menaient 2-0. Et puis, c'était deux buts signés du Nigérian. Denis, parlez-nous de ce buteur avant qu'on continue.
Oui. Et qu'on Emmanuel aille tout Bonaventure suite, Denis, c'est un joueur qui était un petit peu en dessous des radars, qui jouait en Ukraine. À Lugansk et qui a été recruté il y a 2 ans par le FC Bruges et qui s'affirme de plus en plus dans cette équipe très africaine. C'est sans doute l'équipe qui joue ses poules de Ligue des Champions où il y a le plus de joueurs africains qui sont titulaires réguliers. Et là, il a saisi sa chance, il a été très efficace. Hein. Un bon décalage du Sud-Africain Persitao sur le but. Bon, il marque un but d'avant-centre classique. Et un deuxième où il est lancé en profondeur et c'est assez incroyable. Il manque de trébucher et il arrive quand même... sur sa dernière foulée, un peu comme
avait fait même dans la pelouse,
voilà, hein, un peu comme l'avait fait Harry Kane il y a deux semaines. Il arrive à se récupérer, à lober Thibaut Courtois, qui pour le coup, on en reparlera peut-être, a pas été très décisif sur ce match, c'est le moins qu'on puisse dire.
Effectivement, on y reviendra. En tout cas, score plus que mérité à la mi-temps. On a vu une équipe du Real à moitié perdue sur sa pelouse. On se demandait ce qui se passait. Finalement, les Meringues vont réussir à égaliser. Et écoutons Zinedine Zidane, parce que Zinedine Zidane, il n'a pas été, lui, surpris par le jeu de Bruges. C'est plutôt ses joueurs qui l'ont été.
Surpris, non. On savait que c'était une équipe qui était dans deux joueurs face en contre-attaque. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont bien défendu. Et ensuite, ils jouaient sur leurs deux, trois joueurs qui étaient très, très rapides devant. C'était pas surprenant, vous savez, on a bien étudié cette équipe, mais le problème c'est qu'on est très mal rentré nous dans notre match et ils sont bien rentrés, donc voilà, on a fait une très mauvaise première mi-temps. Si on continuait comme ça, on n'allait pas gagner le match, on allait certainement le perdre et qu'il fallait changer ça, tout simplement. Mais pas question de tactique, de quoi que ce soit, c'était mettre plus d'envie, plus de pression sur l'adversaire, ne pas laisser jouer et essayer de jouer dans le camp adverse.
Zinedine Zidane, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse du match, Nabil?
Il couvre ses joueurs, on a bien compris, mais on commence à comprendre entre
les
lignes.
Il reconnaît quand même que à un autre moment en espagnol, il avait dit on n'a rien contrôlé, on était vraiment mal parti dans ce match, quoi.
Il pointe personne, il utilise.
Il dit qu'il a jamais vu ça.
L'impersonnel, quoi, en globalisant, mais enfin on sait très bien de qui parle. Et là, ce qui est ennuyeux dans cette histoire, c'est qu'on sent que finalement, qu'il devient un peu normal. Il est un peu comme tous les autres entraîneurs quand ils sont en difficulté. On voit qu'il n'a pas aujourd'hui. C'est les joueurs qui décident. Et ces joueurs-là, c'est des joueurs qui sont pour beaucoup en fin de cycle. Et donc, à moins de faire des choix drastiques, prendre ses responsabilités, se réinventer, changer de système de jeu, mais avec aussi et forcément.
Il faut avoir les joueurs pour.
Oui, et puis pas forcément avoir tout de suite les résultats. Parce que quand vous changez, en règle générale, il faut laisser un peu de temps avant que la mayonnaise prenne quand elle prend. Eh ben, je dirais pas qu'on le sent perdu, mais on sent qu'il ne trouve pas. Voilà. C'est plus ça. Il ne trouve pas la solution.
Mais pourtant, Patrick, c'est bien les cadres qui sauvent ce match, parce que on voit Zidane va faire rentrer Marcelo. Alors, Nacho est blessé, dit-on. Après, il change aussi Courtois. Ça, on y viendra à part, mais lui aussi. Alors, lui, il serait malade. Et puis, c'est quand même Ramos qui marque.
Et Casemiro.
Et ensuite, c'est Casemiro.
Oui, c'est les cadres. Moi, je pense que Zidane a plutôt fait une gueulante, mais collective à la mi-temps. Il a dû mettre son groupe face à ses responsabilités. Et c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire, il dit, on ne maîtrisait rien. Il ne pointe pas un joueur en particulier. Alors, je pense, on en parlera après, il y a son gardien qui est quand même en cause, mais ça, c'est pas un joueur de champ. Mais chez les joueurs de champ, il apparaît sur une réaction d'orgueil. Mais moi, je ne pense pas.
Ça marchera.
Surtout contre des parce que là, ce n'est que le FC Bruges, qui est quand même un poids léger de cette Ligue des Champions. Quand vous jouerez des FC Séville,
le PSG, vous prenez 3-0.
Voilà, mais si vous jouez même des gros clubs de Liga, ça ne suffira pas. Les ressources morales, c'est bien gentil, mais il faudrait qu'il y ait un début de fond de jeu et d'organisation collective qui tienne la route dans cette équipe, et pour l'instant, on ne l'a pas.
Comment comprendre, Saïd, ce Barça qui encaisse deux buts,
ce Real. Attention, vous pouvez avoir un texto de Rémi,
comment comprendre que le Real encaisse tout d'un coup ces deux buts si vite, hein, les deux viennent en à peine 20 minutes. On a l'impression qu'ils sont surpris, on a l'impression qu'ils sont lents, on a l'impression surtout qu'il n'y a pas de défense, alors quand même qu'il y en a une sur le terrain. Comment comprendre ça? Ils n'étaient pas dans leur match, ils n'étaient pas rentrés dedans, c'est de la suffisance, c'est quoi?
C'est un naufrage collectif qui s'explique peut-être aussi par l'envergure de l'adversaire. On ne se prépare pas à un match de Ligue des Champions quand on joue contre, même s'ils ont perdu 3-0 contre Paris, quand on joue contre le Bayern, quand on joue contre des grosses équipes. Quand on affronte Bruges, on a souvent tendance à se dire, bon, ça va, c'est un poids léger, on est le Real Madrid, ça devrait le faire. Voilà, on a peut-être cette suffisance-là. Et Madrid a été surpris, je pense qu'il s'attendait pas à une telle adversité. Et bon, je veux pas entamer tout de suite le sujet sur Courtois, mais avoir un gardien pas rassurant comme ça, ça démoralise l'équipe, parce que le premier but est quand même un but gag. Donc quand même, ça joue dans le moral des joueurs. Il y avait juste Benzema devant, qui faisait un peu office de leader et qui sortait du lot. Mais la plupart des joueurs de Madrid étaient complètement largués. Après, je sais pas si c'est l'effectif en tant que tel qui pose problème ou c'est Zidane. Parce que Zidane, il faut le rappeler, hein, il n'a pas l'effectif qu'il veut. Jovic, il n'en veut pas. Pour ce match, il n'a pas convoqué Bale parce qu'il est légèrement blessé. Mais bon, il a quand même pris Courtois, qui est aussi soi-disant malade. Il n'a pas pris...
James, qui était lui aussi blessé, dit-il. Il dit que les deux étaient un peu blessés, qu'ils ne voulaient pas prendre de risques.
Il se passe de pas mal de joueurs. On sait qu'il a demandé certains joueurs et qu'il ne les a pas eus. Moi, j'ai l'impression que Zizou ne veut pas composer avec ces joueurs-là. Qui les aligne, mais que son discours ne passe plus et que surtout les joueurs ne sont plus réceptifs à ce discours-là. Et quand les joueurs ne sont plus réceptifs, bah finalement tu te retrouves dans un cul-de-sac et tu peux pas avancer.
Et le problème, ça serait Zidane.
Pas uniquement, je pense que
il a sa part de responsabilité
parce qu'il est dans une attitude un peu jusqu'au boutiste puisqu'il voulait à tout prix Paul Pogba cet été. À un moment, on a compris que ce ne serait pas possible puisque le mercato
parce que son anglais, président n'a pas fait ce qu'il fallait. Non, peut-être.
Mais à un moment, de toute façon, le mercato anglais étant fermé, il était évident que Manchester United n'allait pas s'en séparer alors qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes acheter un joueur en compensation.
On voit que ses dirigeants n'ont pas fait l'effort.
Mais pourtant, le Real
Madrid, les joueurs qu'on lui a proposés, il n'en voulait pas parce que lui, c'était Pogba. J'allais dire Pogba ou rien.
C'est ça, c'était Pogba.
Et cette attitude-là, alors, on peut la comprendre. Il défend ses choix, mais au final, il se retrouve avec un effectif amoindri, avec peu de solutions de rechange, et surtout, tous ces joueurs sont en fin de cycle. Certains sont rassasiés. Pour certains, ils ont déjà gagné 4 fois la Ligue des Champions. C'est beaucoup trop. Donc, on a du mal à voir quel ressort il peut actionner pour remettre tout le monde dans le bon sens.
Sur le deuxième but de Bruges, on voit quand même très nettement que c'est une erreur très près du but en fait, et c'est Modric qui porte la responsabilité en l'occurrence.
Ça tourne Nabil. Mal. Si ce genre de coup avant vous les rattrapiez parce que Ramos ou Varane étaient plus alertes, ou même. Ça arrivait quand vous meniez 4-0, quoi. Je veux dire, oui, une perte de balle avec un petit peu de, peut-être une ou deux touches de balle en trop. Et après, moi, je suis comme Patrick. Je pense que le problème, c'est qu'il y a trop de gars qui ont plus la dalle. Excusez-moi l'expression. C'est-à-dire que je pense que ça reste des compétiteurs. Après, il y en a ceux qui ont un lien presque une filiation naturelle pour Zidane, et c'est des soldats, ils seront loyaux jusqu'au bout. Je pense à Benzema, par exemple. On sent bien qu'il y a une relation.
Ramos, je pense qu'il sera loyal jusqu'au bout au Real, mais beaucoup d'autres, maintenant, ils sont un petit peu, leur histoire est terminée avec le Real, et on peut un peu le rapprocher de Tottenham, dont on parlera peut-être après. C'est des joueurs qui en ont trop fait dans ce club, il faut tourner une page.
Il refuse, ce genre de discours, Zidane, et il dit, c'est que tout le monde est préoccupé par la qualification du groupe. Mais ça fait beaucoup dans l'effectif de ceux qui
vous,
qui,
a, vous avez un autre problème, Annie, c'est que même si ces joueurs peuvent être rassasiés sportivement, financièrement, ils ont des conditions tellement confortables, ils ont un contrat tel qu'ils n'en auront peut-être jamais dans un autre club de top niveau européen, donc ils ne sont pas non plus pressés de partir, ils ne font pas des pieds et des mains pour partir, même s'ils savent qu'ils ne joueront pas énormément comme Gareth Bale.
Mais ceux qui devaient prendre le relais.
Ça fait une équipe de sénateurs, ça fait une équipe de joueurs un peu... qui ont plus faim et qui ça se voit sur un terrain. Et Zidane, en plus, n'a pas la profondeur de banc, parce que beaucoup de joueurs ont été prêtés ou vendus par le Real. Il n'a pas la profondeur de banc pour changer 6 joueurs d'un coup et garder une équipe de haut niveau. Voilà.
Saïd, je pense que Zidane se voile la face quelque part. Des joueurs comme Luka Modric qui avait exprimé leur désir de partir, fallait les laisser partir. Ils étaient à la fin d'une histoire. Donc les conserver de force.
Ramos aussi voulait partir, on l'a su.
Oui, après Ramos, comme le disait
c'est
Patrick,
prier,
il a l'ADN Real Madrid. Voilà. Il est là depuis qu'il a 22 ans.
Il est là depuis très longtemps.
Et surtout, lui, au niveau de la performance, il est quand même toujours constant.
Voilà.
Mais des joueurs comme Marcelo qui sont vraiment usés, il faut quand même réfléchir à les remplacer. Tous ces joueurs-là, maintenant, ils sont dans une équipe complètement usée. Et rester dans cette configuration-là, c'est très néfaste pour le Real Madrid.
Alors, le changement de gardien, c'est ce qui a surpris, évidemment, et ce qui était le fait marquant à l'issue de cette première mi-temps ratée. Écoutons Zinedine Zidane expliquer ou rapidement nous dire pourquoi il a changé de gardien. Et c'est au micro d'un confrère francophone belge qui l'interview juste à la sortie du match.
Le changement de Thibaut Courtois, à quoi est-il dû ?
Il n'était pas bien.
Merci Zinedine.
Il n'était pas bien. Courtoisie envers Thibaut Courtois.
Pas mal,
Nabil. Franchement, il faut être dans le secret du vestiaire. Je ne peux pas me... La presse espagnole dit qu'il était...
De toute façon, il perd ce joueur, non ?
Ouais, mais au-delà de ce qui s'est passé avec Courtois, qu'il soit sorti...
Il a été sifflé dans le...
Ça ressemble quand même beaucoup à la blessure diplomatique.
On sait que c'est un point de discordance entre
encore
lui...
Encore un.
et Florentino Pérez en amont, parce que lui, il n'a pas demandé Courtois, il voulait conserver
Zidane.
Navas. Je parle de Zinedine Zidane, parce que bah c'est voilà,
ça se passait bien.
Ça se passait bien, il donnait satisfaction. Et je pense même, je vais aller plus loin, les cadres du vestiaire, Ramos, si vous leur demandez leur avis, je pense qu'ils préféraient continuer avec Navas. Le problème de Courtois, c'est que il règle pas le problème, parce que s'il est bon ou très bon ou phénoménal, on se pose plus la question de sa légitimité.
Évidemment.
Et aujourd'hui, il n'a pas acquis la légitimité suffisante.
Et puis c'est pas le premier match où il fait des erreurs, où il est approximatif dans ses sorties.
Le premier match,
voilà,
il est champion.
Et même en championnat, il a fait quelques matchs où il n'était pas irréprochable. Et en plus, il a un défaut aux yeux des supporters et même de beaucoup de joueurs, c'est que c'est un ancien de l'Atlético. Tout ça,
ça dérange pas.
Plus venu à Madrid pour des raisons, j'allais dire, de commodité personnelle que pour un vrai choix sportif. Donc tout ça, quand ça va mal et que les supporters et l'environnement est au courant de tout ça, ça fragilise encore plus un joueur.
Ça aide dans la tête d'un joueur quand cette situation qui se retrouve à la mi-temps, qu'il a été sifflé. Finalement, est-ce que c'est lui rendre service que de ne pas le faire revenir?
C'est rendre service à l'équipe en tout cas. C'est rarement arrivé qu'un coach change son gardien, même quand le gardien est très mauvais. Donc ça montre quand
on
même.
On était tous étonnés d'ailleurs à la mi-temps de voir qu'il avait mis
Areola. Bah, surtout le gagnant du loto, c'est Areola, on en parlera après.
Bah oui, mais
c'est le gagnant du loto.
C'est extrêmement rare que ça arrive. Ça montre quand même l'ampleur des dégâts. Il y avait quand même une stat folle qui circulait dans les médias, c'est que Thibaut Courtois n'avait pas fait de clean sheet depuis février dernier, avant le match à Séville. Et à Séville, il fait un clean sheet parce que Séville n'a cadré aucune frappe. Donc ça montre quand même que Thibaut Courtois est un réel problème. Alors je déteste faire ça parce que ça me donne l'impression de m'acharner sur ce joueur, mais ce joueur ne montre aucune garantie. Keylor Navas a un Courtois dans chaque orteil, dans chaque doigt de la main. Et vraiment, ce gardien, en plus d'être arrogant, parce que quand Navas est parti, il s'est pas gardé de s'exprimer, de dire « Maintenant, je suis le numéro 1, je suis en confiance », et ben mon garçon, ça se voit pas. Hein.
Après, moi, j'en parle souvent avec Karine Galli, qui le croise en zone mixte. En tout cas, il est apprécié. Peut-être qu'Olivier Pron nous écoute. Il vient toujours répondre. Non, mais il vient toujours répondre. Il se cache jamais et il est franc.
Je tenais
à dire, une fois, je me suis retrouvé à l'antenne avec lui en duplex. Je vous assure, il n'esquive aucune question. Aucune question.
Non mais oui,
on
est d'accord, mais ça ne l'exonère pas de.
C'est gentil pour nous, mais
de ses manques.
Non mais voilà.
Alors parlons d'Areola. Parce qu'Areola, du coup, on l'a vu rentrer un peu en sauveur. Alors on l'avait déjà vu faire un match, si je me trompe pas, la semaine dernière. Il l'avait déjà mis.
Il l'avait déjà joué une fois.
Il l'avait titularisé.
Contre Osasuna.
Il y a 10 jours.
Ils avaient gagné de zéro parce qu'il avait fait un turnover assez large. En plus, il fait tourner, il essaie d'impliquer tout le monde. Donc il cherche, il remet en question, il fait jouer la concurrence. Mais on a l'impression, comme l'a dit Patrick, il y en a certains, ils sont un peu, excusez-moi l'expression, ils sont sur
beaucoup de ressorts sont cassés.
Ils sont sur la
fin. Areola, il s'est quand même signalé puisqu'il a évité le 3-0.
Exactement.
Et avec lui, pour le coup, il a fait une sortie déterminante, une parade qui a évité au Real de boire complètement la tasse, parce que là, à 3-0. Avant l'heure de jeu, je pense qu'ils ne revenaient pas vu leur niveau du soir. Voilà, Areola, il ne pouvait que faire mieux, je pense, que Thibaut Courtois sur 45 minutes. Il l'a fait. Maintenant, à lui d'être fort et de résister, parce que les journalistes, la presse espagnole et tout l'entourage du club, maintenant, va les comparer sans arrêt, va faire le banc d'essai permanent et il va falloir tenir avec
ça. On y viendra demain dans Radio Foot en allant voir du côté de Madrid, bien sûr. Saïd,
oui, je veux juste ajouter un dernier mot sur Areola. Quand même, ça reste une sacrée condamnation pour Madrid d'être confronté à choisir entre Areola et Thibaut Courtois. On parle quand même du Real Madrid. Je pense que Madrid a fait une très grosse erreur en laissant partir Kepa à l'époque où il jouait à Bilbao, en les laissant partir à Chelsea et en misant sur Courtois. Ils auraient dû choisir Kepa parce
mais
qu'il
déjà,
est plus jeune, il est espagnol.
À cette époque-là, on doutait déjà de Courtois, je me souviens, l'année dernière.
Ça fait déjà deux saisons qu'il est, qu'il
Navas
est moyen.
Était
donc je pense que le Real Madrid a fait une erreur en amont déjà.
Écoutons la réaction de Bruges et le commentaire de Bruges, parce que pour eux, évidemment, c'est un très bon résultat. Oui. C'est leur deuxième match nul
en
Ligue
de
des Champions.
Après celui contre Galatasaray.
À domicile. Celui-là, donc, obtenu et de haute lutte du côté de Madrid. Un très bon résultat pour Clinton Mata, qui, dit-il, a bien du mal à réaliser.
C'était un grand match. Même moi, jusqu'à présent, je réalise toujours pas ce qu'on vient de faire, parce que c'est quand même grand venir au Real et proposer le football qu'on a proposé en première mi-temps. C'était un football osé, mais aussi voilà, pour moi ça me surprend pas le football qu'on a proposé aujourd'hui, puisque on s'était dit avant le match de venir jouer et d'oser, et c'est ce qu'on a fait. Ça nous a procuré plusieurs occasions, comme on aurait pu en mettre plusieurs en première mi-temps. Non, c'était clair qu'en deuxième mi-temps, ils allaient revenir avec des autres intentions. Et c'est ce qu'ils ont montré. Ils sont revenus à deux buts partout. Et après, vous savez, on était à 10. C'était gérer voilà, les espaces avec un homme au moins. C'est encore plus difficile, mais voilà, on l'a fait au mental.
Il a marqué ?
Il a marqué.
Au mental, oui, il a marqué. Cristiano Ronaldo, on y viendra après. Au mental, ce Clinton Mata, joueur de Bruges, vous pouvez nous en parler, Patrick, je suis sûr.
Évidemment.
Mm-hmm. Jamais en échec, Patrick, il est jamais échec et Mata dans cette émission.
Jamais un joueur de nationalité belge, mais qui joue pour l'Angola, donc au niveau international, mm-hmm. et qui est un des nombreux joueurs africains de cette équipe du FC Bruges, qui est la plus africaine du lot et qui aurait pu l'être encore plus, puisque au dernier jour du mercato, Bruges a failli recruter Diane. Victor Wanyama.
Et Diane surtout. Ah, il est là.
Et Diane qui est là par contre,
oui,
qui a failli aller en Anderlecht. Donc voilà, il a fait sa partition comme les autres sur ce que j'ai vu de ce match. Et je pense que le FC Bruges peut viser dans cette poule. Ils vont se battre pour la troisième place parce que on peut espérer.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils se battent pour la deuxième?
Oui,
oui. Là, de toute façon, maintenant, ils se battent pour la deuxième puisque le Real est dans les choux et aux fraises, si je puis dire. Mais ça ne va peut-être pas durer quand même. Mais oui, oui, bien sûr.
S'il y a un coup à jouer pour eux, c'est cette saison.
Évidemment. Hein, évidemment, l'histoire repasse pas forcément les plats. Dans une poule comme ça, tout le monde se dit bon, les deux premières places sont réservées pour le PSG et le Real. Mais si un des deux gros clubs n'est pas au rendez-vous et continue d'accumuler les contre-performances, bah évidemment qu'un des deux petits entre guillemets, bah va prendre la
place.
Après,
n'interromps pas le Real trop vite. Hein, En phase de poule, ils sont quand même assez légers chaque année. Mais ils arrivent toujours à se hisser à la deuxième place. Hein. Il reste quand même les matchs retour. Il reste encore un match aller. Il reste quatre matchs. De là à dire que Bruges peut jouer le coup, c'est vite dit, je trouve. Je pense que Madrid va se ressaisir. Et ils savent glaner les points importants au bon moment.
On a cru qu'ils allaient se ressaisir aujourd'hui quand même.
Ah ben, aujourd'hui, finalement, ils n'ont pas perdu. Donc, ils se sont ressaisis.
Vaut mieux pas qu'ils tardent trop quand même.
Ouais, voilà, exactement.
On part maintenant du côté de Londres, où là, eh bien, ça a été portes ouvertes pour l'ogre bavarois.
Ah, il y a une faute, non, qui ne sera pas donnée.
Le troisième peut jouer. Et oui, ça va passer. Une fois non, deux fois non, trois fois oui pour Hogminson.
Ça va revenir avec Joshua Kimmich.
Quelle réponse du Bayern avec cette initiative de Joshua Kimmich. Quelle réaction là du Bayern.
Lewandowski finds the corner. It's another late first half goal conceded by Tottenham. And it's Bayern Munich's master marksman Lewandowski with it. Tottenham 1, Bayern 2.
Forward it's Serge Gnabry. Still, oh, that's a really good goal. Gnabry's in again. Trouble. Big trouble. It's a fourth critical. Even
those under real pressure, Harry Kane is clever there. He knew that Nicholas Sula was coming in. Should get them off and running, although here's Gnabry who's on a hat-trick and he's in, and he's clinical again. Lewandowski, oh, that's brilliant. There's Gnabry. He fancies another one. Gnabry, and he's got another one. Oh, my word. It's going from the sublime to the ridiculous for Tottenham Hotspur in the Champions League. Their biggest ever European defeat. And Bayern Munich are running up the score.
Et oui, les Anglais manquaient de qualificatifs à la fin pour commenter ces matchs. Alors, ce match un peu fou qui s'est déroulé du côté de Londres, ils avaient commencé à ouvrir le score d'ailleurs hein, par Kimmich, les Bavarois. Et ensuite,
non, c'est Tottenham qui a ouvert le score, personne.
Ah pardon, oui, effectivement.
Un but qui
n'a
pas
coréen.
Fait bruit longtemps.
Trois minutes plus tard, ils se sont fait égaliser.
Exactement, égalisation immédiate de Kimmich, c'est lui qui a commencé le festival du Bayern Munich. Et ensuite, alors on assistera, eh bien, il y a Lewandowski qui marque, et Lewandowski marque un doublé, et ce sont 56 buts en Ligue des Champions. Ensuite, on a Gnabry, cet international allemand, qui lui va inscrire un quadruplé. On se demandait s'il allait s'arrêter ce soir. Donc, au total, 7-1, et c'est finalement sur pénalty que les joueurs de Tottenham ont réussi à réduire le score. C'est une leçon pour les Spurs.
Ah bah c'est une véritable humiliation. Moi, j'avais l'impression, en voyant ce match, de revoir le fameux match de la Coupe du Monde 2014 entre l'Allemagne et le Brésil. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'à chaque attaque du Bayern, un but allait arriver au bout. Mm-hmm. On sentait que c'était implacable, que dès que...
Et là, c'était pas forcément la faute de du Lloris.
Ah non, c'était pas de la faute de Lloris. Bon, qui a pas, il a pas
non,
fait.
Non, mais il
de...
était abandonné.
Mais il était totalement livré à lui-même avec une défense qui était comme des, on aurait dit des fantômes, des ectoplasmes. Les joueurs étaient là sans être là et le Bayern pouvait dérouler son jeu et rapide. On...
C'était Brésil-Allemagne.
Ouais, mais c'est pire ça. Que pour c'est Madrid ça. Alors. C'était pire. Pour
ah oui. Ah.
Bah, c'était pire en plus parce que ouais. Si vous voulez, vous avez vous avez quand même le dans ce match le finaliste. Sortant quoi, c'est Tottenham, c'est une équipe qui est quand même encore aujourd'hui peut-être un des au départ c'était quand même une des favorites,
surveiller, quoi.
Et surtout
une équipe qui pouvait prétendre au moins au quart de finale et là on dès le deuxième match de poule elle vole en éclat comme ça chez elle pour la première saison complète dans son nouveau stade, enfin ça sent
non,
là
ça
c'est comme
traces,
le Real, c'est une vraie fin de cycle, il y a beaucoup, ce club a peu recruté, l'effectif a peu été régénéré et ça se voit.
Saïd, surtout Tottenham était chez elle, il mène 1-0 sur une faute du Bayern en plus. Hein. C'est Tolisso qui relance mal dans l'axe. Donc, tu es dans les meilleures dispositions. Au bout de 12 minutes de jeu, tu mènes 1-0 contre le Bayern chez toi. Certes, tu te fais égaliser rapidement avec Kimmich, mais tout avait l'air d'être un match équilibré. Rien ne prédestinait à prendre 7 buts comme ça. Et en plus, c'est des buts qui sont énormément dus.
Même si on se souvient hein, du premier match de Ligue des Champions où ils mènent 2-0 du côté de l'Olympiakos et où on imagine qu'ils vont le gagner ce match et finalement ils se font rattraper. Et là, on voit quand même une faillite ou une fêlure déjà.
C'est vrai que ça traduit quand même un manque de caractère dans cette équipe de Tottenham. On parlait du recrutement. C'est vrai que ça a payé l'année dernière. Ils n'avaient pas recruté pendant longtemps en gardant un effectif solide. C'est bien de le faire, mais à un moment donné, il faut savoir aussi renouveler son effectif quand tu avais des cadres comme Dele Alli qui a beaucoup compté dans le jeu et qui ne joue plus parce qu'il est moins bon, il faut quand même penser à le remplacer. C'est un joueur qui avait quand même une importance assez importante, enfin une importance, j'allais dire assez importante, mais ça dit
assez
pas,
grande.
Qui avait une importance assez grande. Un gars comme Eriksen aussi qui a montré qu'il voulait partir. Il faut savoir aussi compenser ce genre de joueur. Donc aujourd'hui, Tottenham s'est vraiment fait humilier.
Et donc je pense qu'ils vont avoir. Vous n'êtes pas surpris, Saïd ?
Ah bah si, je suis surpris. Ah. Après, quelque part, ça s'explique aussi parce que le Bayern Munich. On parle beaucoup de la décadence des Spurs, mais le Bayern Munich a marqué 19 buts cette saison en championnat. Ils ont calé à chaque fois quasiment minimum 3 buts à presque tous leurs adversaires.
Et Lewandowski est incroyable.
Lewandowski, voilà,
en ce début de saison. En tout cas, c'est me rappelle David Finzel, la première fois de son histoire que cette équipe encaisse 7 buts. Alors bon, dans ce stade, c'est pas dur puisque le stade vient d'être construit. Mais par contre, dans
son
histoire,
ils l'ont bien inauguré déjà.
Et qui avait inscrit le dernier quadruplé de l'histoire de la Ligue des Champions?
Cristiano.
Ah bah oui, voilà. Oui, je me doutais. Oui, elle est pas dure celle-là. Ouais. C'est en quelle année?
Ah, c'est 2017.
Plus dur. Non, 2015. Qui a inscrit le dernier quadruplé en sélection nationale?
2015.
Quoi, Cristiano aussi.
Aussi.
Bah face au pays, la dernière fois face à la Lituanie. Avec le Portugal.
Mmh. En tout cas, là, il a donc c'était lui la dernière fois. Nabil sur cette faillite.
C'est une énorme faillite, quoi.
Vous êtes d'accord avec Saïd, c'est quand même un peu comme le Real, finalement, certains cadres qui auraient peut-être dû être changés.
Ça, c'est surtout la question.
On sait
de
que cette équipe se renouvelle peu souvent.
Oui, elle se renouvelle peu, mais quelque part la stabilité en règle générale, c'est pas non plus décroulant.
Vertonghen, Alterweireld, ça commence à être vieux.
Ouais, mais bon, d'ici en prendre 7 contre le Bayern Dominique à domicile, franchement, fallait
super
l'avoir.
Super Bayern, parlons du Bayern.
Bah, le Bayern, c'est fantastique, c'est une équipe qui s'est ressourcée. Alors Pierre dans le jardin ou de Valverde, apparemment Coutinho est un bon joueur de foot quand on le met dans les meilleurs.
Condition.
Niabri également qui est international allemand qui remplace plutôt de manière, enfin pas, il est pas au niveau de Robben mais il fait des belles choses sur le côté. Ce soir il met un quadruplé, c'est tout sauf anodin pour l'ancien Gunners, lui est passé par l'Angleterre. Ensuite Coman, quand il est pas blessé, c'est un super joueur. Et pour le reste c'est comme une équipe qui est assez stable. Kimmich qui commence
formidable,
à s'inscrire. Ouais c'est un taulier. On a même réussi à faire revivre entre guillemets ou à redonner de l'élan et de l'envie à un garçon comme Jérôme Boateng
dans
l'axe, ouais, qui s'est blessé. Alors Pavard pour le coup lui récupère son côté droit comme avec l'équipe de France. Bon, et puis après Lewandowski, il est là pour marquer l'histoire, lui. Il est pas là pour faire du social. Et ce soir face à Tottenham, il s'est régalé. Après Tottenham, je trouve que ils ont plus les moyens de leurs ambitions, c'est-à-dire de jouer haut, de presser comme il le faut, à la perte du ballon d'être quand même capable d'avoir
d'être
un repli, un repli défensif nécessaire. Patrick a raison, la charnière centrale, elle est vieillissante. Vous avez des joueurs comme Loris qui disent à moitié qu'ils veulent partir. Eriksen, qui a été un des hommes forts du système Pochettino, il est déjà quasiment plus là. Donc vous avez beaucoup de situations personnelles qui viennent coïncider avec une dynamique de groupe qui, elle, en déclin.
Beaucoup de joueurs sont plus tournés vers leur propre équipe, ils sont plus tournés vers leur situation personnelle, et ça ne pardonne pas en général.
Alors qu'on a vu Kovac, Niko Kovac, qui
reprend du crédit.
Voilà, justement. Reprend du crédit et rayonner avec tous ses joueurs.
Je voulais mettre un petit mot sur Kovac, parce qu'on l'a beaucoup critiqué. Hein, l'année dernière, il était au bord du licenciement quand même, ça, pour contextualiser.
Mais et c'était là, sa première saison, on s'en souvient.
C'était sa première saison, mais c'était vraiment pas glorieux. Il avait glané le championnat qu'à la fin, deuxième partie de saison, Dortmund avait tenu la dragée haute
pendant très longtemps.
Et au Bayern, ils se sont posé sérieusement la question de savoir s'il allait être conservé. Cette année, il est leader de son championnat, donc il est dans. Et pourtant, son équipe a évolué. Hein. Il perd Robben, il perd Ribéry, même si derrière, ils ont bien recruté, on l'a dit, hein, Coutinho, Perisic aussi sont venus
Coutinho,
renforcer.
Coutinho, c'est un super coup.
Sont venus renforcer cette équipe.
Mais voilà. C'est bien joué.
Belle mention pour Kovac qui a quand même tenu. Qui ne s'est pas laissé faire et qui petit à petit met en place son système.
Et puis il y a le retour de Tolisso, l'international français, c'est quand même important de dire qu'il est de retour, lui qui est souvent dans le dépassement de fonction, et il y a une vraie complémentarité avec Kimmich, en tout cas de
il fait une
voit,
erreur ce soir mais
ouais, de ce qu'on
sans grande conséquence.
Ouais, voilà, de ce qu'on voit même si on n'est pas le mois de février ou le mois de mars. Mais enfin, bon, le Bayern, c'est une équipe qui est candidate. Hein.
Et Robert Lewandowski a inscrit 13 buts à ce jour avec son équipe sous le maillot du Bayern Munich. Toutes compétitions confondues, bien sûr, et c'est le meilleur européen à ce stade. Il me reste quelques instants pour donner le reste des scores de la soirée. Dans le même groupe que Tottenham et le Bayern, on a Étoile Rouge de Belgrade et l'Olympiakos. L'Olympiakos qui avait ouvert le score et qui finalement se fait battre sur le score de 3-1 du côté de Belgrade, oui, dans ce stade
avec
aussi,
une expulsion très sévère,
avec un quart.
Une expulsion très sévère d'international algérien Yacine Benzia, alors que l'Olympiakos menait 1-0. C'était le tournant de ce match.
Oui, et d'ailleurs on a oublié de le signaler, mais Bruges aussi a terminé à 10 le match, et une expulsion aussi, deuxième carton jaune,
un peu dur.
Pour ce qui est de l'autre du groupe C, alors l'Atalanta Bergame a perdu chez elle, cette équipe qui fait ses premiers pas en Ligue des Champions. Elle a perdu, battue par le Shakhtar Donetsk sur le score de 2-1. Dans le même groupe, Manchester City, qui recevait le Dynamo Zagreb, a gagné.
Péniblement.
Minimum, un seul but.
Oui, on aurait pu s'attendre à un record de buts du côté de Manchester City. Et à noter encore une fois la bonne prestation du capitaine des Fenech, Riyad Mahrez, qui a offert un caviar à Sterling sur une phase de jeu assez exceptionnelle des Citizens.
Pour ce qui est du groupe D, celui de la Juventus, bien la Juventus s'est imposée face au Bayer Leverkusen. Alors on disait que tout à l'heure dans la première partie de Radio Foot que cette équipe du Bayer Leverkusen a bien du mal dans son championnat en Bundesliga. Eh bien, elle a été battue sur le score de 3-0 et Cristiano a marqué. Un but de Cristiano Ronaldo, lui qui est déjà le meilleur buteur de Ligue des Champions, 120, ça continue.
128, 120.
Oui, il est assez loin.
Il est bientôt au niveau de la limitation de vitesse. Quoi.
Et puis, dans le même groupe, Lokomotiv Moscou recevait l'Atlético Madrid. Et là, l'Atlético Madrid, qui avait été tenu en échec, on s'en souvient, à Leverkusen, justement, qui n'avait pas réussi à se sortir de ce piège. Là, à Moscou, deux buts de l'Atlético Madrid, score de 2-0.
Voilà. Juste pour complément d'information, j'ai vérifié pour Ronaldo, 130e but.
130e.
Ça vous situe les spécimens.
Trop en retard. Eh bien, c'est la fin de ce Radio Foot International. Demain, deux autres équipes françaises joueront la Ligue des Champions. Lille qui reçoit dans son stade Chelsea et puis Lyon qui se déplace à Leipzig. Vous saurez tout demain dans la première émission de Radio Foot International et puis avec nos envoyés spéciaux Hugo Moissonnier et Christophe Diremzian. Merci beaucoup messieurs, merci aussi à David Finzel et à Laurent Salerno. On veillera demain aussi.